Allez, aujourd'hui, nous voici dans les locaux de l'ADAPEI à Lourdes. Nous sommes en compagnie de Evelyne Lucotte-Rougier, présidente de l'ADAPEI, et Fabienne Detoisien, attachée de direction, également chargée de communication pour cette structure. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, on va parler aujourd'hui des élections. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire qu'on vient chez vous pour parler des élections, mais vous avez beaucoup de choses à dire sur l'accessibilité de ce scrutin pour les personnes en situation de handicap. C'est un sujet très important. D'abord, peut-être un petit mot, Evelyne Lucotte-Rougier, pour nous présenter rapidement quand même la structure et pour mieux comprendre, du coup, après le sujet des élections.
L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, quatrième employeur du département, qui accompagne 850 personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées, avec 18 établissements et services. Donc, une grosse structure avec 650 salariés qui accompagnent ces personnes en situation de handicap. Donc, le sujet des élections municipales, évidemment, est un sujet que nous avons à cœur de mener au sein de nos structures et en tant que parents d'associations militantes pour faire bouger les lignes et de la responsabilité de ces pouvoirs publics.
Ça veut dire quoi faire bouger les lignes? Ça veut dire qu'en amont des élections, alors le premier tour du scrutin, c'est le 15 mars, ça approche, ça veut dire que déjà, depuis quelques semaines, eh bien, vous interpellez les candidats ou des choses sont mises en place dans vos structures pour que les personnes que vous accompagnez puissent elles aussi suivre la campagne, c'est ça?
Plusieurs choses. Effectivement, Fabienne interviendra tout à l'heure pour expliquer ce qui a été mis en place au sein des établissements et notamment sur ça veut dire quoi d'être un électeur et comment je me comporte quand je suis un électeur. Ça, c'est pour les personnes que nous accompagnons. Et nous avons mis en place des élections à blanc. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, le « vie ma vie », on se prépare et effectivement nous en tant qu'électeurs qui ne sommes pas en situation de handicap, ça peut nous paraître facile de se rendre dans un bureau de vote, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est pas inné.
Ça veut dire que vous avez installé ici un faux bureau de vote pour qu'ils puissent avoir des repères?
Absolument, nous avons installé dans plusieurs établissements des faux bureaux de vote avec de faux candidats qui peut-être demain seront des vrais s'il y a des homonymes, mais en tout cas avec de faux candidats et avec tout le process. J'arrive dans le bureau de vote, je présente ma carte d'identité, je vérifie que je suis bien inscrit sur les listes électorales et je choisis un bulletin, je vais dans l'isoloir et ensuite je mets mon bulletin de vote dans l'urne. Donc ça fonctionne. Et ça interpelle, ça rend responsable aussi les personnes en situation de handicap.
Ça interpelle, ça veut dire qu'il y a eu des réactions, des questions quand vous avez mis en place ce coup d'essai, Fabienne Detoisien?
Complètement. Alors, les personnes, au début, sont un peu curieuses. Alors, on avait fait aussi, il faut savoir, on avait fait faire un isoloir par notre atelier pour que vraiment on soit vraiment dans les conditions du vote. Et alors au début les personnes s'interrogent parce qu'elles nous disent oui non mais les personnes là sur le on connaît pas ces personnes, donc il a fallu leur expliquer que c'était une mise en situation, mais voilà, elles ont plein de questions, mais elles nous posent aussi des questions, savoir à quoi servent les élections. Alors elles avaient déjà été informées en amont aussi, on avait prévu l'intervention d'une un ancien maire qui était venu pour expliquer ce que sont les élections municipales, ce qu'est un maire, ce qu'il fait dans sa commune, qu'est-ce qu'on attend d'un maire. Donc ils ont déjà été bien informés et là bon bien sûr ils nous posaient des questions, c'était plutôt chouette. Ils ont beaucoup aimé la mise en situation.
Alors cette mise en situation, elle les prépare aux aspects un peu pratiques, logistiques du moment du vote. Mais alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir en amont comment vous pouvez les accompagner pour que, eh bien, ils puissent choisir leur candidat, parce que voilà, ils ont aussi en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, un choix à faire. Faut peut-être aussi les accompagner à ce niveau-là. Est-ce que c'est aussi votre lieu d'accompagnement?
Alors, on n'influe pas sur évidemment sur le bulletin qui va se retrouver dans l'urne. Par contre, tout le travail qui peut être fait autour du facile à lire et à comprendre, où on incite les candidats à utiliser une transcription de leur programme et de leur profession de foi en facile à lire et à comprendre, en FALC, va amener les personnes vivant avec un handicap à comprendre en fait ce qui se retrouve trouve dans le programme des candidats. Et donc moi, mon job en tant que présidente de l'ADAPI sur ces municipales, c'est d'interpeller les candidats qui se présentent pour les municipales, donc sur toutes les communes où nous avons des établissements principalement, de les rencontrer. Parce qu'au-delà de les interpeller, c'est aussi les rencontrer et avoir de vrais échanges avec eux pour savoir où est-ce qu'ils, comment, ou à quel niveau, à quel curseur ils vont mettre le handicap dans leur programme. C'est aussi leur rappeler leur obligation. Parce que faire de la politique, c'est pas juste désirer être maire d'une commune, c'est aussi avoir des obligations et leur rappeler leur obligation à travers les textes. Nous avons également interpellé le préfet, enfin plutôt invité le préfet à nous soutenir dans la démarche. Et en tant que garant de l'État d'une bonne organisation des élections, il doit aussi être garant de l'accessibilité des bureaux de vote pour les personnes vivant avec un handicap.
Est-ce que sur l'histoire des programmes, les candidats sont réceptifs à ce que vous leur suggérez ?
Oui, pour certains.
Et puis, c'est pas un oui très, très franc. Vous aimeriez que ce soit plus facile, plus évident, que les choses soient plus fluides ?
C'est pas un oui franc parce que malheureusement, je pense qu'encore aujourd'hui, le handicap est vu comme une source de dépenses et pas une source de recettes. Et j'entends par là, on ne sait pas utiliser ou on ne voit pas les capacités en fait des personnes en situation de handicap à faire.
Pourtant, pardon, mais ça fait 20 ans que, enfin même plus que ça, mais en tous les cas, il me semble qu'en 2005, il y a eu quand même une loi importante qui était censée ouvrir les yeux un petit peu.
Vous l'avez dit, était censée ouvrir les yeux. Et effectivement, en période électorale, les élus sont toujours très attentif à ce qui peut se passer, donc potentiellement des bulletins de vote dans une urne. Mais est-ce qu'il y a un vrai engagement autour du handicap ? Et le handicap, c'est pas juste des trottoirs. L'accessibilité universelle, c'est je dois rendre accessible tous mes projets et pour les personnes vivant avec un handicap. Donc c'est pas juste dire mais j'ai rendu accessible et ils vont pouvoir passer par la rampe. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a le handicap physique, mais il y a aussi le handicap intellectuel. Il y a, ces personnes, elles doivent, elles doivent accéder à tout ce qui peut exister sur une commune. Ça veut dire l'école, la culture, le sport, les loisirs et tout ce que l'on peut organiser, tout ce qu'une mairie peut organiser sur son territoire pendant son mandat.
Donc il y a un engagement, il y a un engagement moral, mais il y a un engagement financier qui devrait être évident. En tous les cas, c'est ce que vous appelez de vos voeux.
Il y a un engagement financier et ça ne se décrète pas. Ce n'est pas juste « Ah ben oui, alors qu'est-ce qui nous reste sur le budget ?» Ça veut dire qu'on doit l'anticiper. Évidemment, il y a tellement à faire. 20 ans que la loi, elle existe. Et il faut se poser aussi la question, pourquoi a-t-il fallu passer par une loi pour faire comprendre quand même aux citoyens qu'il y avait des personnes d'une certaine avec une vulnérabilité et qui pourtant sont des citoyens. Ce ne sont pas juste des gens qui sont les boulets, entre guillemets, de la société. Ils existent réellement, ils vivent, ils participent à l'économie aussi d'une commune ou d'un pays.
Et ils votent, ils sont citoyens, vous l'avez dit. Est-ce que sur des listes, il y a des personnes aussi en situation de handicap qui peuvent aussi apporter des choses dans une vie municipale tout en ayant un handicap ? L'un n'empêche pas l'autre ?
Vous avez raison, l'un n'empêche pas l'autre. Il pourrait y avoir des personnes vivant avec un handicap sur les listes. Aujourd'hui, je reste quand même assez dubitative et sur... Et le terme va être un peu fort, mais je vais l'utiliser volontairement comme ça, sur l'utilisation d'une personne en situation de handicap sur une liste électorale. Et je le porte réellement comme ça parce que je ne voudrais pas, surtout une personne déficiente intellectuelle ou avec un autisme ou avec une trisomie, qui peut avoir un besoin extrêmement fort de s'investir, ou un désir même d'ailleurs extrêmement fort de s'investir dans sa commune, mais il faut un temps et il faut une acculturation de la société. Mmh. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans l'entre-deux et je ne voudrais pas cautionner l'utilisation en fait d'une vulnérabilité pour faire croire que nous sommes totalement investis auprès des personnes en situation de handicap.
Pourtant, c'est peut-être le risque à prendre pour faire bouger le regard et les choses.
Ça sera le risque à prendre, c'est évident. Il faudra passer le pas. Ouais. Mais il y a un accompagnement à faire. Ça veut dire qu'il y a une acculturation, même en interne, hein, dans les établissements médico-sociaux, ouais, auprès des familles et auprès des personnes elles-mêmes. Ça veut dire qu'il faut que l'on amène aussi ce civisme et dès l'IME, dès le plus tendre âge, où on doit accompagner ces jeunes enfants à comprendre en fait qu'ils évoluent dans une société, ouais, et qu'ils évoluent dans une société où ils ont quelque chose à dire.
Aujourd'hui, est-ce que je ne sais pas si on peut appeler ça une conscience citoyenne. Est-ce que vous en parlez un petit peu là quand vous les préparez aux élections municipales? Est-ce que ces personnes en situation de handicap prennent conscience que, ben oui, elles aussi, elles ont des choses à dire et qu'elles ont le droit de le dire et qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans la société?
On appuie, et Fabienne appuiera avec justement tous les documents qu'elle peut travailler au niveau de l'atelier FALC. Déjà, ouvrir un atelier FALC, ouais, pour la transcription, c'est un premier pas en interne à l'ADAPI pour effectivement se mettre. Ce n'est pas juste accompagner des personnes dans leur quotidien, c'est aussi leur donner les outils pour qu'elles puissent communiquer. Et nous nous sommes investis très tôt à l'ADAPI pour en tout cas acculturer aussi ces personnes et leurs familles et les professionnels à se considérer comme des citoyens. Donc c'est long, c'est très long, parce qu'en fait, pendant des années, on n'a fait que dire qu'elles étaient à la charge de...
Et elles ne votaient pas ?
Et elles ne votaient pas.
Elles pouvaient, mais on ne les accompagnait pas, on ne les encourageait pas à le faire.
Mais on ne les encourageait, ouais, pas, et même dans les éléments de langage, hein, on disait les personnes prises en charge dans les établissements. Elles ne sont pas prises en charge, elles sont accompagnées. Et elles bénéficient en fait d'une orientation, parce que c'est un droit, et elles bénéficient d'un accompagnement dans certains actes de la vie, parce qu'elles en ont besoin. Donc elles ne sont pas à la charge de la société, parce que ce qu'elles peuvent percevoir d'un côté, elles le redonnent de l'autre. Hein. C'est ce que je dis, elles participent à l'économie. Il y a un impact fort qu'on a tendance quand même un peu à oublier. Et sur l'engagement de l'ADAPI auprès de l'accompagnement, nous avons commencé dès les élections européennes en 2019, quand justement les personnes, notamment sous protection juridique, ont retrouvé ce droit de vote. Parce que c'était quand même assez dingue que, par exemple, des personnes incarcérées, pour certaines, n'ont pas perdu leur droit de vote, oui, et que des personnes, parce qu'elles sont en situation de handicap et parce qu'elles ont besoin d'un mandataire judiciaire ou d'une protection juridique pour certains actes, aient perdu ce droit de vote. Donc ça a été un premier combat du mouvement parental de l'UNAPI. Et en 2019, nous avions organisé un colloque avec la préfecture à l'époque, et avec des partenaires espagnols, donc à travers un projet transfrontalier, pour expliquer ce qu'était le droit de vote en Espagne et en France. Un colloque qui a interpellé beaucoup, parce que c'est là où on a vu qu'il y avait un décalage entre la France et l'Espagne. Les Espagnols n'ont jamais perdu, enfin en tout cas ont toujours eu cet acte citoyen, alors qu'en France, on ne l'accompagnait pas. Le mouvement UNAPI, donc au niveau de la tête de réseau, insiste et porte aussi ce droit. C'est-à-dire que ce pourquoi nous existons, au-delà de l'organisation quotidienne de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est aussi, en fait, défendre leurs droits. Et quand défendre ses droits, c'est tout simplement un citoyen qui, à un moment donné, doit être inscrit sur les listes électorales. C'est un premier droit. Ah oui. Et il est reconnu comme un citoyen à travers cela. Après, qu'il aille mettre un bulletin dans l'urne, ça lui appartient, comme tout à chacun. Il ne faut pas tout mélanger. Et c'est là où il faut que les professionnels l'entendent, que les familles l'entendent et que les candidats l'entendent, mais qu'ils puissent repérer qu'une personne en situation de handicap est un électeur à part entière, est un citoyen avec des droits. Et il faut respecter cela.
Merci beaucoup, Evelyne Lucotte-Rougier. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Fabienne de Toisière, pour terminer, sur peut-être un peu les aspects pratiques? Là, vraiment, on approche du premier tour des élections. C'est dans moins d'un mois. Comment ça se prépare?
Alors, déjà, là, on a vraiment fait le plus gros du travail, puisqu'on a...
Donc là, tout le monde a testé le bureau de vote.
Voilà. On avait mis 5 simulations sur 5 établissements différents où on invitait toutes les personnes qui le souhaitaient à venir tester ce qui était qu'une action de vote. Donc, voilà, on a eu quand même beaucoup de participation, et essentiellement sur les ESAT. Sur les foyers, voilà, ils ont eu énormément de participation. Ça les a rassurés de pouvoir se mettre en situation. Alors, nous, au niveau de l'atelier FALC, on a un atelier FALC, du facile à lire et à comprendre. Mmh. On a créé des documents. Ouais. Pour faciliter justement l'acte de vote ou l'accès au vote. Et voilà. Et ça a été travaillé avec des personnes de chez nous. On a pris le temps et on a créé des documents, donc qui soient accessibles, qu'on a diffusés dans tous nos établissements. Voilà, déjà, ça a été un premier document.
Au sein de l'atelier FALC, dont Fabienne est responsable, ce sont des personnes en situation de handicap qui transcrivent. Donc, et ça, c'est important aussi de le dire. Ça veut dire que on a pu avoir des demandes de certains candidats pour les élections ils nous ont demandé de transcrire leur profession de foi ou leur programme. Je voudrais aussi donner une alerte parce que par rapport à l'intelligence artificielle, certains candidats utilisent l'intelligence artificielle pour transcrire leur programme ou leur profession de foi en facile à lire et à comprendre. Alors sur le papier, en premier abord, quand on n'a pas suivi la formation, on pourrait penser qu'on a réussi son coup et que le programme va vraiment être accessible aux personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, ça ne remplace pas la transcription par un atelier facile et lire à comprendre, et surtout par la compréhension que les personnes elles-mêmes vont mettre dans cette transcription. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, oui, elle va faciliter, sans doute, elle va donner les pistes, mais elle ne remplacera jamais une personne en situation de handicap qui va transcrire un document classique en document transcrit en FALC.
Voilà. Ben merci beaucoup.
Il ne faut pas oublier que la première règle du facile à lire et à comprendre, c'est la participation des personnes en situation de handicap. C'est la première règle. S'il n'y a pas de personne en situation de handicap dans le FALC, ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est l'essentiel.
Merci beaucoup pour vos réponses, pour votre éclairage. Et on voit que les choses avancent, les choses bougent. En tous les cas, pour ce scrutin municipal de mars 2026, il y a des choses qui n'existaient pas au précédent scrutin. Voilà, on voit que ça avance, mais qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Merci beaucoup pour vos réponses, Evelyne Lucotte-Rougier, Fabienne de Toisien. Je rappelle que nous étions aujourd'hui dans les locaux de l'ADAPEI 65 à Lourdes. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.